VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise en Gambie. Un mini-sommet regroupant quatre chefs d'État de la CEDEAO s'est tenu à Abuja, au Nigeria, pour discuter de la crise gambienne. Selon les médias nigériens, l'organisation panafricaine a décidé d'envoyer une nouvelle mission en Gambie ce mercredi, alors que la Cour suprême doit en principe examiner demain. En Gambie, le recours introduit par le président Yahya Jammeh. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Les présidents du Nigeria, Muhammadu Buhari, du Sénégal, Macky Sall, du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf et l'ex-chef d'État ghanéen, John Dramani Mahama, tentent de trouver une solution à la crise en Gambie. Samedi, lors de l'investiture du nouveau chef de l'État du Ghana, Nana Akufo-Addo, la présidente en exercice de la CEDEAO, la libérienne Ellen Johnson Sirleaf, avait déclaré que l'option militaire n'était pas à l'ordre du jour et que l'organisation continuait de privilégier le dialogue. L'organisation régionale maintient donc la pression sur Yahya Jammeh, qui appelle à de nouvelles élections et refuse de reconnaître la médiation ouest-africaine. Mais la question d'une éventuelle intervention militaire semble diviser les leaders de l'organisation. Alors que le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, avait annoncé que celle-ci était prête à envoyer des troupes en Gambie, le président guinéen Alpha Condé, lui, avait publiquement déclaré son opposition à toute option militaire. Alors que la date du 19 janvier prévue pour l'investiture d'Adama Barrow approche, les États-Unis ont conseillé à leurs ressortissants de quitter la Gambie, tandis que le Nigeria se dit prêt à évacuer ses citoyens si nécessaire.
En Côte d'Ivoire, la démission du gouvernement du Premier ministre Daniel Kablan Duncan, acceptée par le président Alassane Ouattara, s'inscrit dans le respect de la nouvelle constitution, adoptée avec une écrasante majorité lors du référendum du 30 octobre. Une démission attendue depuis samedi dernier qui a été retardée par les mouvements d'humeur des militaires qui ont secoué le pays pendant 48 heures. Daniel Kablan Duncan est pressenti pour le poste de vice-président. Il a remis sa démission dans un climat tendu au moment où commence une grève des fonctionnaires. Plus de détails avec Narita Namasté, notre correspondante à Abidjan.
Le premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a présenté sa démission et celle de son gouvernement au président de la République ce lundi, conformément à l'article 83-84 de la Constitution ivoirienne, où les fonctions du membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Le Parlement nommé membre du gouvernement ne peut siéger au Parlement pendant la durée de ses fonctions ministérielles. L'élection du président de l'Assemblée nationale est en cours et les résultats seront connus ce lundi. Si membres du gouvernement candidats à la législature, 17 ont été élus députés et doivent prendre part à la séance inaugurale de l'Assemblée nationale. Un pays à nouveau à l'épreuve d'une crise de mécontentement, celle de la grève lancée par l'intersyndical des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Cette grève touche plusieurs secteurs de l'administration publique. Lors de notre passage au centre universitaire de Cocody et de Trècheville, seulement le service minimum d'urgence s'est assuré. Une grève largement suivie à l'intérieur du pays. Pour l'heure, en attendant la nomination du nouveau vice-président et des responsables des institutions de la Troisième République, les regards sont tournés vers le Parlement ivoirien. Narita Namasté, Abidjan, VOA Afrique.
Au Sénégal, ouverture ce lundi à Dakar du procès en appel de l'ex-président tchadien Hissène Habré, 7 mois après sa condamnation à la prison à perpétuité en première instance lors de son procès devant les chambres africaines extraordinaires l'an dernier. L'ancien leader tchadien n'est pas venu aujourd'hui à l'audience. M. Habré n'a jamais reconnu cette cour, cofinancée par l'Union africaine et plusieurs pays occidentaux. Alors, que peut-on attendre de cette nouvelle étape judiciaire de l'affaire Habré? Au micro d'Abdourahmane Dia, les explications de Marcel Mendy, porte-parole des chambres africaines extraordinaires.
À l'issue de ces différents échanges juridiques entre les différentes parties, le président va suspendre la séance pour permettre à la chambre de délibérer. En principe, le délibéré devrait durer au bas mot 3 mois. Toujours est-il qu'à la fin du mois d'avril, le jugement définitif devrait être connu de tout le monde.
Cette fois-ci, le procès devrait être plus court que celui en première instance.
Évidemment, parce qu'on ne revient pas sur les faits. Là, il s'agit de débattre du droit. Autrement dit, voir si le droit a été bien appliqué. Voilà pourquoi on va vers une bataille juridique, voyez, entre les différents avocats.
Marcel Mendy, porte-parole des Chambres africaines extraordinaires à Dakar, au Sénégal.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Cameroun, journée ville morte ce lundi dans plusieurs villes des régions anglophones du pays à l'appel d'organisations sécessionnistes. À Bamenda, épicentre de la contestation des anglophones qui protestent contre ce qu'ils appellent leur marginalisation dans un pays à majorité francophone, tout est paralysé, a affirmé sous couvert d'anonymat un enseignant joint par l'AFP depuis Yaoundé. Idem à Bouéa, chef-lieu de la deuxième région anglophone, a souligné un autre enseignant. La partie anglophone du Cameroun est aussi, rappelons-le, l'un des fiefs de l'opposition au régime du président Paul Biya. La minorité anglophone représente environ 20% des 22 millions d'habitants du pays. Au Tchad, la nouvelle plateforme dénommée Mouvement pour l'éveil citoyen Messi dérange le MPS, parti au pouvoir ainsi que le gouvernement tchadien. Résultat, le ministre en charge de l'administration du territoire a interdit toute activité de ce regroupement sur toute l'étendue du territoire de N'Djamena. Les explications de notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
C'est pour la première fois depuis 1990, date de prise du pouvoir par le président Déby, qu'un regroupement des différentes entités et corporations ayant pour fondement la refondation de la démocratie et des valeurs républicaines a fait bouger les hautes autorités de l'État. Alors qu'Idriss Déby et ses courtisans ont comme slogan « Le chien aboie, la caravane passe ». Mais cette meute de chiens sous la coupe du Messie retient l'attention particulière de la caravane. Car après les sorties médiatiques du MPS, des partis politiques de la majorité présidentielle, et d'une coalition proche du pouvoir dénommée « Touche pas à mes acquis », demandant au gouvernement de prendre ses responsabilités face à ce regroupement, le ministre en charge de l'administration du territoire, Bachar Ali Souleymane, sort de son silence.
Ce regroupement qui s'est fait sans aucune base légale établit un partenariat séditieux avec des organisations dites rebelles dans l'objectif de troubler la paix et l'ordre public interne. Sur la base du droit positif, le ministère en charge de l'administration du territoire effectuera une évaluation de la situation et donnera toutes les suites pénales, administratives et législatives qu'impose cette initiative qui ne saurait être tolérée. En attendant, toute activité de la plateforme dénommée Mouvement d'éveil citoyen est interdite.
Pour Nasra Dimasengar, l'un des porte-parole du Messie, la peur a changé de camp.
Le gouvernement lui-même dit qu'il n'existe pas de mouvement armé au Tchad aujourd'hui. Donc on ne peut pas être de connivence avec un groupe qui n'existe pas. Nous n'allons pas avoir peur d'une déclaration visant à nous intimider. Nous allons continuer nos activités normalement. Que le ministre vienne donc fermer la porte des partis politiques et des associations et tout le monde saura que c'est un retour à la dictature.
Face à ce bras de fer entre le mouvement pour l'éveil citoyen et le régime MPS, voici l'analyse du professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste, indépendant et enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena.
Le problème n'est pas du tout juridique. La question porte sur les fondements de ce regroupement. Le fondement de ce regroupement porte sur les causes et les responsabilités de la crise. Donc ça braque le gouvernement dans une sorte d'accusé. Au lieu de porter sur la recherche de solutions à la crise. Si les uns et les autres s'entêtent, il y aura d'une part un gouvernement qui va mettre toutes les dispositions, notamment sécuritaires. Alors le débat risque d'être tranché dans la rue et c'est ce qui est dommage.
André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Et pour terminer, en Égypte, le ministère de l'Intérieur a indiqué que 7 policiers et un passant ont été tués aujourd'hui dans une attaque à la voiture piégée dans l'est du pays. Des précisions avec Anastasie Todiech.
Selon le ministère de l'Intérieur, les assaillants ont essayé de conduire le véhicule jusqu'au barrage de sécurité, mais la police a ouvert le feu avant qu'ils aient atteint leur objectif. Les assaillants ont également ouvert le feu avec des lance-grenades près de la ville d'Al-Arish, dans le nord du Sinaï. Cette région est très régulièrement visée par des attaques contre l'armée et la police, qui ont fait des centaines de victimes parmi les forces de l'ordre. Les attentats ont été revendiqués par la branche égyptienne du groupe État islamique. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui a destitué son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi en 2013, mène une sanglante répression contre toute opposition en Égypte, islamiste comme laïque.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.